Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat confiné qui ce soir se demandera si la crise du coronavirus met durablement en danger nos libertés. Depuis le 24 mars, nous vivons en France sous le régime d'un état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie et des libéraux comme le philosophe Pierre Manan ou encore des intellectuels plus à gauche se plaçant dans la lignée de Michel Foucault ont immédiatement protesté contre cette restriction des libertés. Une restriction qui pourrait durer après le déconfinement et selon certains même s'amplifier avec les outils numériques de traçage supposés contrôler un redémarrage toujours possible de l'épidémie. Nous allons en discuter ce soir avec la présidente par intérim du Conseil consultatif national d'éthique, Karine Lefeuvre, spécialiste par ailleurs d'éthique de la protection des personnes vulnérables. Frédéric Chilot est également avec nous. Frédéric Chilot est historienne, elle vit en Israël, où une application de traçage a été mise en œuvre et elle fait débat aujourd'hui. Elle nous a fourni d'ailleurs un texte pour la conversation mondiale qui continue sur le site de France Culture. Vous pouvez le lire, il a été publié hier. Et Martin Rueff est philosophe, poète, traducteur. Il a été également l'éditeur de Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade. Il est particulièrement traducteur du philosophe Giorgio Agamben, qui a été très virulent contre les états d'exception votés dans différents pays européens à l'occasion de cette crise. Alors je vais commencer avec vous, Karine Lefeuvre, vous qui êtes donc présidente par intérim du Conseil consultatif national d'éthique. Évidemment, le temps est particulier et j'imagine que ces questions de protection des libertés, tout en évitant le démarrage ou le redémarrage des questions liées à la pandémie, sont des questions qui vous occupent très particulièrement. Karine Lefeuvre, bonjour.
Bonjour. Oui, effectivement, l'actualité est extrêmement dense partout, mais aussi et particulièrement au niveau du Comité consultatif national d'éthique, puisqu'on a été saisi à plusieurs reprises. On entame un travail de veille aussi et de réflexion sur les enjeux autour du post-confinement. Et moi, ce qui me marque beaucoup, mais vous me coupez hein, si vous voulez que je autrement. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est finalement depuis le début de la crise, cette relation très étroite et cette tension entre la liberté et la contrainte. Nous sommes, vous le savez, on le sait tous, un pays où les Français sont extrêmement attachés à cette liberté. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise républicaine, liberté. Fraternité. Nous sommes un état de droit. Or là, nous fonctionnons à l'inverse, c'est-à-dire nous fonctionnons dans le régime d'exception de l'état d'urgence sanitaire, ce qui pose beaucoup de questions d'ordre juridique, mais aussi, et là c'est de la compétence du CCNE, d'ordre éthique.
Si vous aviez à lister très brièvement les différentes questions qui se sont posées à vous depuis le début, depuis le vote de cet état d'urgence sanitaire en matière de liberté, qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur ces différentes questions, Karine Lefeuvre ?
Alors, bien évidemment, la première liberté qui nous touche, l'atteinte à la première liberté qui nous touche tous, c'est la liberté d'aller et venir. C'est quand même, on est rentré dans une sorte d'état de sidération, si on peut dire les choses comme cela. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, hein, du jour au lendemain, on nous demande de ne pas sortir ou de sortir de façon contrôlée, avec une attestation, en justifiant, au risque de prendre une amende, de devoir payer une amende. Donc, c'est bien sûr cette liberté d'aller et venir, la liberté d'expression aussi, la liberté de... quand j'ai dit la liberté d'expression, c'est la liberté de faire des choix. Vous savez qu'on a particulièrement travaillé sur la question du confinement des personnes âgées en EHPAD. Là, on est complètement sur ces sujets-là. Mais ça, c'était la réponse à la saisine d'Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, le 30 mars. Mais dès le 13 mars, on avait aussi, sur saisine du ministre de la Santé, rendu un avis sur les enjeux éthiques face à une pandémie. Donc là, on avait abordé toute une série de problématiques avec 10 points d'attention, justement par rapport à ces enjeux de liberté notamment, et puis 4 recommandations.
Et puis évidemment, avec le déconfinement, toutes ces questions qui vont être liées à disons, l'inégalité des citoyens face à ce déconfinement, inégalité peut-être géographique, inégalité peut-être par âge, on ne sait pas encore comment cela va se dérouler, mais en tous les cas, il y a évidemment une question d'égalité et d'inégalité qui pourrait se mettre en œuvre, en particulier avec ces questions de traçage numérique volontaire qui sont aussi en débat, Karine Lefeuvre.
Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, là, on arrive au deuxième mot de la devise. liberté, égalité. Donc c'est, et d'ailleurs, on a vraiment, enfin, on a tous remarqué, hein, au niveau du CCNE, ce risque très fort d'accentuation de la précarité. On parle même de survulnérabilisation des personnes déjà en situation de fragilité. Donc, il y a vraiment un enjeu de cohésion de l'ensemble, de cohérence et de cohésion de l'ensemble de la population. Et c'est en fait ce qui est très très difficile pour les décisions politiques, hein, et le gouvernement en l'occurrence, c'est de prendre des décisions dans une situation actuelle où on ne sait pas. Voilà, dans une situation actuelle d'incertitude. Et la réflexion éthique, d'habitude, elle s'inscrit dans le temps. D'ailleurs, moi, j'aime bien le symbole du sablier. Le temps s'écoule, sauf que là, les décisions doivent être prises à la fois vite, parce qu'il y a une attente, et en même temps, on voit bien que le temps s'écoule durablement. D'ailleurs, c'est la question que vous posez. La crise met-elle durablement en danger les libertés? Elle remette en question dans cet état d'urgence actuel, hein, état d'urgence sanitaire, les libertés, c'est légitime, c'est justifié, ça doit être strictement contrôlé, proportionné, adéquat. La question, c'est le durablement. Voilà. Mm-hmm. Et donc, il y a une vigilance très forte à avoir sur le fait que si on l'étend, cet état d'urgence, il va falloir resserrer ses contrôles. C'est d'ailleurs ce que la CNIL a dit dans son dernier avis sur le traçage, où elle disait ben finalement, ok, on l'autorise, mais sous réserve qu'il y ait des garanties, que les garanties des principes fondamentaux soient vraiment renforcées, et sous réserve de vérifier l'utilité de façon très régulière.
Oui, Frédéric Chilot, vous êtes avec nous depuis Israël, où vous vivez, vous êtes historienne, et en particulier vous avez travaillé sur les rapports entre la France et Israël naissant. Vous êtes aussi citoyenne dans ce pays, et vous voyez comment effectivement cet exemple israélien est souvent cité avec Singapour, avec la Corée du Sud, justement par cette question du traçage numérique. Mais évidemment, chacun des pays réagit différemment avec sa propre histoire face à cette question du coronavirus. Et en particulier Israël, qui était en situation d'état de l'urgence permanent, dites-vous, Frédéric Chilot.
Oui, Israël est vraiment l'état de l'urgence, puisque depuis sa création le 14 mai 48, il est sous un régime d'état d'urgence permanent. Alors ça s'explique à la fois par un état de guerre permanent, une menace qui est permanente, mais pas seulement. Par exemple, Israël a pris des réglementations spécifiques où il invoquait une menace imminente. C'était par exemple pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, la guerre du Liban en 82. A contrario, ici, Israël a adopté des lois d'urgence sans que sa sécurité n'ait été en péril. Par exemple, les lois économiques et fiscales en 1977 qui ont été prises sous le régime de la loi d'urgence. En fait, Israël dispose d'un mécanisme. Rapidement, il est basé à la fois sur l'héritage législatif du mandat britannique, sur la loi d'urgence aussi qui est inscrite dans la loi fondamentale et qui en fait est renouvelée automatiquement chaque année. Et également des règlements d'urgence, alors qu'ils sont pris cette fois pour la défense de l'État, la sécurité publique, le maintien des fournitures et des services essentiels. Ceux-là sont valables 3 mois. Ils ont été beaucoup utilisés dans le passé. Tout cela fait un mécanisme assez souple qui permet une décision assez rapide, une rapidité aussi d'exécution après la prise de décision, ce qui s'est vu par exemple pendant la crise du coronavirus, qui est bien pratique pour le gouvernement. Le fait est que, évidemment, les opposants dénoncent une normalisation dangereuse de l'état d'exception, une aberration démocratique. Le fait est que ces 20 dernières années, Israël n'a simplement utilisé 16 fois des réglementations d'urgence, alors qu'Israël a rencontré des moments particulièrement troublés. Il y a eu la seconde intifada, 3 opérations à Gaza, la seconde guerre du Liban. Seulement 16 réglementations ces 20 dernières années. Or, depuis la crise du coronavirus, eh bien, il y en a eu, à ce jour, 70. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui une utilisation qui est faite de ce mécanisme très, très habile, très, très efficace et pratique, bien encadré par la loi, mais une utilisation politique qui est faite aujourd'hui. C'est là que se pose le problème, puisqu'aujourd'hui, Israël, c'est un État qui est gouverné par un gouvernement minoritaire, par un premier ministre par intérim, qui est en train d'essayer de former un nouveau gouvernement. Mais le problème aujourd'hui est bien sûr sur l'utilisation politique qui est faite de ce mécanisme juridique.
On y reviendra avec vous dans un instant à propos de la question du traçage numérique. Martin Vureff, vous êtes le troisième invité de cette discussion dans ce temps du débat autour de la question des libertés. Donc vous êtes philosophe, vous êtes poète, vous êtes traducteur, vous êtes professeur à l'université de Genève, vous trouvez encore aujourd'hui, et vous êtes le traducteur, entre autres, de Carlo Ginzburg, l'historien, d'Italo Calvino, ou encore de Giorgio Agamben, ce philosophe italien dont on a beaucoup parlé, parce que dès le début, avant même qu'il y ait, une discussion qui soit née autour de la question des libertés, il a protesté contre l'état d'exception dans son propre pays, en Italie ou dans d'autres pays, en disant, eh bien, c'est devenu la condition normale après le terrorisme, a-t-il dit, eh bien, il y a maintenant la Covid-19 qui remplace le terrorisme pour justifier auprès de l'État des mesures d'exception et un état d'urgence permanent, Martin Rueff.
Oui, bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour mesdames. Oui, effectivement, Giorgio Agamben a été sollicité et il a même, on peut dire, précédé le débat, puisque dès février, dès le 26 février, il est intervenu avec un article qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il avait le titre malheureux de « L'invention d'une épidémie », article dans lequel Giorgio Agamben soutenait qu'il n'était pas... invraisemblable de penser que cette épidémie était d'une certaine manière utilisée par le gouvernement italien, comme il l'avait été par le gouvernement chinois, pour mettre en place des mesures d'exception. Il faut dire que la pensée de Giorgio Agamben, depuis la fin des années 2000, le premier livre, vous vous en souvenez sans doute, Emmanuel, le Homo Sacer, le pouvoir souverain et la venue, qui était de 97, qui avait été suivi en 2003 d'un livre qui avait fait beaucoup parler de l'état d'exception, ce livre soutenait en effet que l'état d'exception, et Madame Chilo vient de le rappeler pour Israël, est devenu le paradigme gouvernemental par excellence, c'est-à-dire que ce qui devrait être d'une certaine manière assez rare dans la gestion des crises de notre démocratie, est devenu d'abord sous le coup des attaques du terrorisme, puis sous la menace climatique, et puis maintenant sous la réalité de l'extension de cette pandémie, est devenu un paradigme qui permet au gouvernement de gouverner. Alors il faut juste rappeler, Emmanuel, la définition qu'en donne Agamben, à la suite d'une pensée qui se développe depuis le XVIIIe siècle, c'est que l'état d'exception est une mesure qui est à la fois illégale et parfaitement juridique et constitutionnelle. Donc c'est une illégalité qui est encadrée par la Constitution, et c'est bien ça qui, évidemment, choque le philosophe, mais choque aussi chaque citoyen dans sa vie démocratique.
Oui, c'est tout à fait évident. On vous réinterrogera dans un instant, Martin Rueff. Karine Lefeuvre, ces questions sont étrangement posées par des bords du spectre politique très différents. Quand vous avez discuté justement au CCNE, au Conseil national d'éthique, sur ces questions d'urgence, sur ces questions de liberté bridées pendant l'état d'urgence sanitaire, vous pouvez vous trouver face à un libéral pur, genre Gaspard Koenig par exemple, ou un libéral comme Pierre Manant, penseur du libéralisme, qui dit dans un dernier texte, c'était publié dans le Figaro récemment, effectivement, que nous avons les traits les moins aimables de notre État qui se manifestent dans ce moment en particulier, mais aussi une critique venant de la gauche ou de l'extrême gauche, nourrie par la pensée de Michel Foucault, sur le biopouvoir, disant que l'État prend trop de place dans ce contexte-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine Lefeuvre ?
Alors, la première chose que je voudrais redire par rapport aux politiques ou aux autres courants, c'est vraiment l'importance, et on y est très attaché, de l'indépendance de cette instance du CCNE, qui est composée de 40 membres. En fait, on travaille on travaille dans les différents avis, et on peut le retrouver comme un fil rouge, notamment dans l'avis de fin 2018 sur le vieillissement. On le retrouve trouve très fortement ancrée dans la vie dont je vous parlais tout à l'heure du 13 mars dernier, donc vraiment une actualité très proche sur les enjeux éthiques face à une pandémie, où on insiste sur l'autonomie et sur la responsabilité. Donc là, il faut trouver... Oui, tout à l'heure, je vous parlais d'un sablier. Là, j'ai envie de prendre une autre image, c'est celle de la balance. Et il y a cette mesure à trouver entre ces... cette contrainte et puis ces principes éthiques, mais aussi juridiques, qui doivent prévaloir, en tout cas être aménagés et vraiment contrôlés, avoir un œil de vigilance le plus aigu possible durant toute cette période.
Vous donnez des avis, évidemment, le politique les écoute ou les écoute moins, mais aussi les citoyens en font plus ou moins ce qu'ils veulent de ces avis. Il y a tout de même, disons, une marge d'interprétation que chaque citoyen peut avoir vis-à-vis de ces avis. Et par exemple, pour ce qui est le cas dans les EHPAD, peut-être effectivement ce qui s'est passé avec des directeurs d'EHPAD, ça a été de dire, ben voilà, on va brider un peu la liberté supplémentaire pour protéger les patients ou les pensionnaires de nos établissements, pour pouvoir éviter qu'ils ne tombent malades et qu'ils ne meurent, interprétant en cela d'une certaine manière une vision un peu particulière justement de cette question de la contrainte et des libertés.
Oui, alors j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, comme son nom l'indique, nous sommes un comité consultatif national d'éthique. Donc, on rend des avis qui sont consultatifs. Le pouvoir public ne sont pas obligés de nous suivre. Mais malgré tout, c'est un comité donc au niveau national qui existe depuis 83, créé par François Mitterrand, je vous le rappelle. Donc, il y a une véritable histoire. Voilà. Donc, le fait de c'est pas anodin que le ministre de la Santé ait sollicité le comité consultatif pour l'éclairer comme le conseil scientifique l'éclaire d'un point de vue scientifique. Sur la question que vous évoquez dans les EHPAD, c'est très important et effectivement, je reviens à ma notion, mon image de balance, parce que le fait d'attirer l'attention et de rappeler vraiment toute l'importance de la mesure, c'est pour éviter d'avoir des comportements qui seraient trop excessifs, une interprétation trop stricte et la perte de repères. Et en fait, l'éthique, c'est ça, c'est la recherche constante des repères, d'une visée juste. Et en fait, on a constaté effectivement que dans des établissements, on avait beaucoup de retours. Il y en a qui, effectivement, ou des professionnels et des managers, essayaient d'aménager par rapport à l'appréciation du risque, bien sûr, parce que le risque, il faut l'avoir en tête dans cet état d'urgence sanitaire. Et puis de l'autre, une interprétation stricte. Voilà, ça, vous avez dû voir passer l'interview de cette vieille dame qui disait, mais moi, je voudrais parler à ma voisine, j'ai pas le coronavirus, elle non plus, pourquoi on nous interdit? Vous voyez, c'est une question de bon sens et de mesure. Et en fait, c'est l'enjeu par rapport aux citoyens, c'est un enjeu d'adhésion, un enjeu d'acceptabilité. Et d'ailleurs, je serais très très intéressée d'entendre notre collègue qui est à Genève, parce que je l'entendais dire tout à l'heure que il y avait eu un appel quelque part à la citoyenneté, mais sans confinement strict. Voilà, donc en tout cas, moi, ça m'interpelle beaucoup et ça m'intéresse d'en savoir plus.
Martin Arbeff, justement, sur cet appel au civisme qui a été fait aux Suisses, de rester chez eux, mais sans les contraindre à rester chez eux, sans l'outil que nous avons eu de cette attestation que nous devons montrer chaque fois que nous sortons dans la rue.
Oui, alors... Madame Lefebvre et Emmanuel Laurentin, je vais répondre rapidement à cette question. Et puis je reviendrai sur un point qui me paraît décisif dans ce qu'a dit Emmanuel Laurentin au départ, c'est-à-dire comment cette crise redistribue l'échiquier politique. Hein. Et je pense que si on ne prend pas la mesure de ça, en fait, on est en train de passer à côté de l'urgence politique de ce qui va se passer après le déconfinement. Alors oui, en effet, hein, les autorités suisses, le Conseil fédéral, a demandé aux citoyens de respecter le confinement, mais n'a pas jugé nécessaire d'émettre des mesures juridiques et des mesures de police pour contrôler les gens. Donc c'est-à-dire qu'en Suisse, on peut sortir de chez soi sans exhiber un document qui atteste de la légitimité d'aller acheter un morceau de pain ou d'aller acheter une orange. Cela dit, les magasins étaient fermés comme en France et comme en Italie. Mais l'idée qui a prévalu, c'était un appel, disons, à la responsabilité de chacune et chacun. Et d'une part, le gouvernement suisse, la Confédération, avait du mal à émettre à ce titre-là, je reprends un des points essentiels de la discussion, des mesures d'urgence. Et d'autre part, l'idée de faire payer les gens parce qu'ils se déplaçaient dans un espace public dont on n'était pas sûr qu'il était en mesure de les soigner, n'a pas apparu légitime. Je pense que ce point est important. Mais si Emmanuel le permet, j'aimerais revenir à sa question. Aujourd'hui, on oublie que le concept de biopolitique, c'est-à-dire le fait que la politique s'occupe d'abord de la santé, d'abord de la vie dans ce qu'elle a justement de biologique, ce concept Foucault le crée, et Agamben le reçoit de Foucault, dans un cours qui est le cours de 1978-1979, et au moment où Foucault le crée, il marque un temps d'arrêt, et il dit, mais en fait, pour répondre à cette question, comment est-ce que la politique s'est emparée de la vie nue, je dois faire une généalogie du libéralisme. Et c'est dans ce cours qu'il oppose donc le libéralisme tel qu'il s'est développé au XVIIIe siècle, et le libéralisme de la fin des années 70, et on trouve dans ce cours de Foucault 78-79, des remarques tout à fait passionnantes sur la politique américaine, des remarques tout à fait passionnantes sur Giscard d'Estaing. Donc c'est un cours dans lequel, si vous voulez, le problème que Emmanuel évoquait, c'est-à-dire comment se fait-il qu'aujourd'hui l'extrême-gauche et des penseurs de droite se retrouvent dans la défense des libertés individuelles et des libertés publiques à l'égard d'un État qui pourrait s'en emparer et les violer. C'est une question que Foucault posait, je la cite dans ces termes, dans les termes de Foucault, c'est le cours de 78-79, « Dans un système qui est soucieux du respect des sujets de droit et de la liberté d'initiative des individus, comment le phénomène de la population, c'est-à-dire donc le peuple traité comme une donnée biologique, avec ses effets et ses problèmes spécifiques, peut-il être pris en compte ? » Et la question que pose Foucault, je crois que c'est une question qui s'adresse à nous aujourd'hui, c'est « Est-ce que pour protéger, je cite Madame Lefebvre, les plus vulnérables, on veut moins d'État ou plus d'État ? Est-ce que pour protéger les libertés individuelles, on est prêt à céder sur des initiatives de l'État ou est-ce qu'au contraire, on peut les renforcer ? » Et je pense qu'il est tout à fait important de rappeler que ces questions en Italie, elles sont très urgentes, parce que c'est le pays qui a inventé la notion de garantisme, c'est-à-dire du côté d'une pensée qui est une pensée libérale.
Voilà. Ça veut dire quoi, le garantisme ?
Le garantisme, c'est la conviction que le premier ennemi de la défense des libertés individuelles, c'est un État qui s'arrogerait trop de droits. C'est une pensée qui vient de Montesquieu et qui a été développée par Beccaria et les penseurs de... Voilà, il y a un livre qui est paru l'année dernière là-dessus de Dario Hippolito en France, qui est un livre très très intéressant sur la question de... Il faut défendre l'individu contre un État qui s'arrogerait des prétentions à occuper des places qu'il ne peut pas occuper. Et notamment, la notion d'état d'exception, Emmanuel, elle émerge quand un État, c'est par exemple chez Schmitt, le penseur du nazisme, le penseur des nazis plutôt, quand l'État, tout simplement, confond le législatif et l'exécutif.
On y reviendra dans un instant, Martin Rueff. Il est temps de faire une petite pause. Vous écoutez le temps du débat. Le débat d'aujourd'hui porte sur la question de la crise du coronavirus et la façon dont elle mettrait ou pas cette crise durablement en danger nos libertés. Nous sommes avec Martin Rueff, Frédéric Chilot et Karine Lefebvre.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Frédéric Chilot, vous vivez dans un état justement d'urgence ou de l'urgence que vous nous l'avez dit, c'est-à-dire en Israël. Une des questions que posent justement ces questions des libertés et de l'acceptation des citoyens d'avoir bridé certaines de leurs libertés parce que le danger est grand, et vous avez cité ce cas des règlements d'urgence, 70 règlements d'urgence en un mois depuis la crise du Covid justement en Israël. C'est aussi la question de la confiance que les citoyens peuvent avoir dans leur état. Dans le texte que vous nous avez fourni pour la conversation mondiale sur ce qui se passe dans ce temps de Covid En Israël, vous dites évidemment, il y a des barrières, il y a en particulier la Cour suprême, il y a des commissions parlementaires, il y a tout un tas de choses qui disent, par exemple, pour les commissions parlementaires, on dit ben, sur la question du traçage et de la géolocalisation, les avantages que cela procure sont inférieurs à la grande violation de la vie privée. Tout cela sont des questions qui sont débattues dans la société israélienne.
Oui, ce sont des questions qui sont débattues, mais il faut quand même préciser d'abord que les Israéliens comprennent le sens de l'urgence, qu'il y a aussi un sens du collectif en Israël. C'est un État-nation avec une identité collective très forte. On parle même quelquefois de démocratie ethnique, hein. C'est l'État juif et démocratique. Donc il y a un très grand sentiment d'unité, le sens du collectif est très présent. Néanmoins, il y a une défiance du politique, notamment aujourd'hui dans la phase de déconfinement qui se trouve être plutôt chaotique en Israël. Il y a une défiance à l'égard du politique, mais une très grande confiance dans les services de sécurité et de la défense. Ce qui fait que les Israéliens acceptent finalement aujourd'hui les mesures de restriction qui leur sont faites. Mais ils l'acceptent parce qu'ils comprennent justement le sens de l'urgence. Alors, les Israéliens ont perdu la liberté de circuler, la liberté de travailler, mais néanmoins, ils ont conservé le droit, par exemple, d'expression, le droit de manifester, et ils l'expriment. On l'a vu de façon assez saisissante, incroyable. Place Rabin à Tel Aviv, 2000 manifestants sur la place qui respectaient les règles de distanciation sociale. C'était la première manifestation à l'ère du coronavirus, avec des masques médicaux sur le visage, éloignés les uns des autres de 2 mètres. C'était assez exemplaire. Ils ne sont pas descendus dans la rue. Ces Israéliens-là ne sont pas descendus dans la rue pour contester les lois d'urgence contre le coronavirus, mais au nom de l'urgence démocratique, parce qu'ils contestent la corruption et le gouvernement d'immunité que souhaite aujourd'hui mettre en œuvre Netanyahou. Mais vous l'avez dit, Israël est une démocratie et il dispose de garde-fous. Il y a notamment la Knesset, l'Assemblée, où finalement a été discutée la question du traçage numérique en commission. Et puis la Cour suprême, qui a été saisie par plusieurs associations, notamment l'Union des journalistes, sur cette question de traçabilité numérique. Et la Cour suprême, le 26 avril au soir, donc a rendu cet avis. Et donc aujourd'hui, cette loi d'urgence va devoir passer et être étudiée comme une loi exemplaire, donc comme une loi normale, une loi ordinaire devant la Knesset.
Oui, c'est donc le jugement de la Cour suprême tout récent qui oblige le gouvernement à refaire repasser effectivement cette question du traçage numérique devant la Knesset, devant l'Assemblée. Karine Lefeuvre, ça n'est pas la question principale dont vous traitez au comité consultatif d'éthique que cette question du traçage numérique, puisqu'on l'a évoqué, il y a tout un tas d'autres libertés qui ont été entravées pendant le temps de l'état d'urgence sanitaire. Mais néanmoins, c'est une question qui bouscule beaucoup les opinions publiques, savoir si on sera tracé, de quelle manière, etc. Comment abordez-vous la question avec les autres membres de ce conseil dont vous êtes la présidente par intérim, Karine Lefeuvre?
Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que depuis le début de la crise, mais même avant, hein, mais on voit bien que ça prend une ampleur assez considérable, toutes les thématiques que l'on étudie sont traversées par la question des technologies, par la question du numérique, au sein du CCNE dit santé. Et depuis décembre 2019, il y a un nouveau comité qui a été créé sous l'égide du CCNE, et c'est donc le comité national pilote d'éthique du numérique, qui, lui, se concentre sur ces questions. Alors, ils ont déjà rendu un bulletin sur la question de la surveillance. Là, ils sont en train de travailler sur la désinformation. Ils vont travailler aussi sur la question du traçage. Donc, de toute façon,
la télémédecine aussi, j'imagine,
ils sont en train de travailler actuellement là-dessus, tout à fait. Donc, c'est en train d'animer complètement. Je me permettrai de revenir, vraiment, je suis très, très intéressée par cet exemple d'Israël, hein, entre l'urgence et puis la démocratie. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la confiance des citoyens en l'État. Moi, j'ai envie de dire aussi et réciproquement. On assiste à c'est ce qu'on appelle le courant de la démocratie participative, la démocratie en santé dans le champ de la santé. En tout cas, c'est le fait que les citoyens souhaitent pouvoir s'exprimer et les associations d'usagers, la Conférence nationale de santé entre autres, mais pas que, demandent à ce qu'il y ait une instance ou ce qu'on appelle un comité de liaison. Et le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, l'avait fait valoir aussi, c'est-à-dire une place où la société civile puisse s'exprimer. Et on est beaucoup à être convaincus du fait qu'il est effectivement temps ce que la société civile participe d'une façon ou d'une autre à ce débat pour jouer sur cette question de confiance, ce qui ensuite a un lien avec cette acceptabilité des citoyens face au danger, parce que finalement, même si on voit des citoyens qui ne respectent pas toujours parfaitement les règles, globalement les règles de confinement sont quand même très bien respectées, donc il y a cette acceptabilité, et en même temps aujourd'hui il y a une lassitude, parce qu'on en a tous assez d'être confinés. Donc vraiment, je pense qu'il est, il est temps que la société civile d'une façon ou d'une autre puisse s'exprimer. C'est ce que l'on avait d'ailleurs déjà inscrit comme recommandation le 13 mars.
Oui, parce qu'effectivement, certains des travers potentiels, c'est-à-dire ce qui tombe du haut de notre État jusqu'aux citoyens eux-mêmes sans qu'ils puissent y rétorquer d'une manière ou d'une autre, sont mis en cause par ces questions de traçage, de discussion, de débat public. On voit dans les tribunes de juristes, dans Le Monde par exemple tout récemment, hier, sur le régime juridique des données médicales, qui devient désormais une question centrale, sur le renforcement de la protection des lois de santé, mais on voit aussi que l'ancien président, qui est président d'honneur du Conseil d'éthique, comme Didier Sicard, s'allie avec des spécialistes du numérique pour dire tout compte fait, est-ce qu'au bout du compte, ça serait pas plus intelligent, il ne serait pas plus intelligent de mettre en œuvre beaucoup d'argent sur la création de brigades, de forces sanitaires qui iront interroger les gens sur la manière dont se passe le déconfinement et dont ils sont peut-être porteurs ou non du virus, plutôt que de tenter de créer une grande innovation technologique comme Stop Covid, qui provoque beaucoup de discussions dans la société ces temps-ci, Karine Lefebvre.
Alors peut-être deux choses. La première, c'est que même s'il faut être effectivement extrêmement vigilant par rapport au respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles, des libertés publiques. Il ne faut pas pour autant, je pense, se priver de l'utilisation de ces outils technologiques. Et là, on voit bien que, en tout cas, le choix qui est peut-être en train d'être fait par la France, c'est le tracing et non pas le tracking à la coréenne, qui n'est pas du tout dans le même ordre.
C'est quoi la différence
de respect? De respect des droits. Là, dans le tracing, il n'y a pas de géolocalisation. C'est sur le principe du consentement, c'est sur le principe du volontariat, alors à condition d'être vigilant sur l'application de ces droits-là. Mais on n'est pas sur le même contexte. Et puis finalement, vous voyez, vous avez dû vous apercevoir que j'aime bien les images, mais je trouve que c'est très parlant. Je trouve qu'en l'occurrence, on ne parle pas d'un bouquet numérique, mais d'un bouquet où le numérique serait, c'est plus un bouquet de solutions, où le numérique serait une des solutions. Voilà. Et effectivement, j'ai entendu Didier Sicard et je le rejoins hein, sur l'importance de faire appel à l'humain à côté de l'outil technique, bien sûr, technologique. Mais voilà, c'est vraiment la convergence de l'ensemble de ces modalités qui nous permettra aujourd'hui, dans cet état d'urgence sanitaire qui va demander à un moment à être assoupli parce que les Français peut-être ne le supporteront plus, voilà, de trouver une solution en intelligence collective où on puisse avancer contre ce virus.
D'ailleurs, Martin Rueff, en France, la Commission nationale informatique et liberté, s'est dit dans son avis récent refuser ce qu'elle appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette idée qu'effectivement, par la technologie, on réglerait certaines des questions qu'il faudrait peut-être régler par la politique. Et elle rejoint en cela, par exemple, avec ce terme de solutionnisme technologique, des gens qui sont plus marqués à gauche, comme les gens de la Quadrature du Net, qui disent effectivement ce solutionnisme technologique, c'est donc des applis qui pourraient Certes, aujourd'hui, elles sont ces applications laissées aux soins de chacun des citoyens pour pouvoir les utiliser, mais elles pourraient devenir un jour obligatoires, comme ça a été le cas en Chine, par exemple, ou dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là, Martin Rueff ?
Bien, écoutez, plusieurs choses. D'une part, ce qui est quand même très frappant, c'est que les techniques de gouvernement aujourd'hui, hein, sont confrontés, et Madame Chilo et Madame Lefebvre le disaient bien, des arsenaux techniques, technologiques, hein, avec lesquels, hein, il n'est plus du tout question de ne pas discuter, de ne pas rentrer en matière. Les dispositifs, et c'est un terme qui a une carrière politique tout à fait importante, hein, les dispositifs, ce sont des techniques dans lesquelles les sujets acceptent ou n'acceptent pas de se laisser prendre. Et ce qui est quand même très frappant en ce qui concerne les dispositifs de tracing ou de tracking, c'est quand même de dire que ils apparaissent à un moment où les sujets, depuis les citoyens, les citoyennes et les citoyens, depuis bien longtemps, acceptent ce type de dispositif. Si on pense quand même à ces dispositifs dont j'ignore la pratique, mais je sais bien qu'ils existent, comme chacune et chacun d'entre nous, hein, qui permettent à des gens de se localiser pour avoir des relations sexuelles, etc. Dans ce cas-là, les gens les acceptent, et même les recherchent. Mmh. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout penser la technique comme quelque chose qui s'imposerait de l'extérieur et qui arriverait à des sujets innocents. Les sujets se laissent plus ou moins, et Madame Chilo le disait bien, il y a des tas de barrières qui sont à la fois des barrières associatives, des barrières politiques. Hein. On peut, en tant que citoyenne et citoyen, mettre en question le bien fondé de dispositifs qui rentrent dans l'intimité de nos existences, dans l'intimité des existences de nos enfants, hein, sous prétexte de nous mieux soigner. Hein. On peut mettre en question le bien fondé démocratique de ces dispositifs. Et je crois que plus on avancera, plus la vigilance dans ce domaine sera nécessaire, et plus le visage de la démocratie de demain dépendra de notre acceptation à ces dispositifs. Et il faut bien rappeler, et ça c'est Rousseau qui le dit, que ce genre de technique ne s'impose pas brutalement, elle s'inscrive dans une histoire dans laquelle, hein, la résistance des gens est de moins en moins grande, parce que, précisément, les coups répétés et lents ont des effets tout à fait considérables. Moi, je suis tout à fait surpris, et je pense que je ne suis pas le seul, que dans nos démocraties modernes, on ait pu imposer avec autant de facilité la mesure qui a consisté à dire aux gens « Vous ne pouvez pas assister aux funérailles de vos proches ». En Italie, je le rappelle, à Bergame, c'est pas des dizaines, c'est pas des centaines, c'est des milliers de gens qu'on a enterré sans leurs proches, qu'on a brûlé, et on a dit aux gens, ben écoutez, vous reviendrez chercher les cendres quand la situation... Bon, je ne dis pas parce que je n'en sais rien, Emmanuel, si cette mesure était nécessaire. Mais ce qui me frappe, et je dis ça par rapport à la question du dispositif que vous posez de manière tout à fait pertinente, c'est que nous acceptions de manière aussi consensuelle des dispositifs qui nous privent des droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire ceux d'honorer nos morts. Ça, je crois quand même que si une société se mesure, le taux de civilisation d'une société se mesure aussi à la manière dont il honore ses morts, je crois que là, on a perdu des points, si vous me permettez.
Frédéric Chilo, pour aller vers la conclusion de cette discussion autour à la fois des libertés en général, liberté publique, liberté privée, mais également de ce traçage qui se met en place en Israël où vous êtes, mais qui va bientôt se mettre en place sûrement dans d'autres pays, et en particulier chez nous-mêmes, en France.
Je rebondis sur ce qui vient d'être dit à propos du fait d'honorer les morts. Aujourd'hui même, en Israël, c'est le jour du souvenir. Et les familles n'ont pas le droit d'aller se recueillir aujourd'hui sur les tombes de leurs proches qui sont tombés pendant la guerre ou dans des opérations terroristes. Donc vous voyez, les Israéliens aussi l'acceptent, mais l'acceptent peut-être même plus difficilement que les mesures, par exemple, concernant le traçage numérique. C'est un vrai déchirement de ne pas pouvoir honorer ses morts, et on voit vraiment, oui, le sens de la société. Pour ce qui est des applications de traçage, Israël a l'originalité, bien, de faire les deux, c'est-à-dire à la fois une application qui est basée sur le consentement, le volontariat, qui a été mis en place par le ministère de la Santé, qui préserve l'anonymat, avec un code ouvert aussi qui est vérifiable.
Le bouclier,
mais
c'est
également,
ça.
Voilà le bouclier à Magen qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Mais déjà quelques jours auparavant, le Premier ministre Netanyahou avait instruit officiellement, et il l'avait déclaré, le Shin Bet, donc les services de renseignement intérieur, de transmettre leurs données au ministère de la Santé, qui ensuite se chargera d'envoyer des SMS aux gens qui ont pu rencontrer, croiser un porteur du coronavirus. Et donc on a appris à cette occasion eh bien, qu'en fait, le Shin Bet disposait déjà de toutes les données et opérait une surveillance de tous les citoyens. C'est en fait le cousin du prisme américain qui avait été dévoilé par Snowden en 2013 aux États-Unis. Mm-hmm. Ça s'appelle ACLI, c'est un outil, l'outil du Shin Bet, l'outil. En fait, il n'y a pas eu vraiment de moment Snowden en Israël, d'abord à cause précisément de la crise du coronavirus qui englobe tout, qui fait accepter de nombreuses choses. Aussi parce qu'il y a encore une fois cette idée de consentement, de sens du collectif. Les Israéliens se disent que l'outil, eh bien, finalement, il a sauvé déjà des vies. Il en sauvera peut-être encore demain. Et même son extension hors du champ antiterroriste, elle n'est pas vraiment discutée, même si le débat est là, évidemment. Mais encore une fois, c'est l'utilisation politique qui en est faite aujourd'hui par un pouvoir actuel qui monopolise énormément de pouvoir entre les mains du Premier ministre.
On pourra d'ailleurs vous lire donc le texte que vous nous avez confié donc sous le titre « Une conversation mondiale » est en ligne sur le site de France Culture. Un tout dernier mot très très bref, Karine Lefeuvre, justement sur ces débats sur les libertés que nous avons entamés avec vous trois depuis le début de cette émission, mais très bref.
Écoutez, je rebondirai simplement sur la question du deuil. Je rejoins complètement les intervenants précédents et je vous invite à aller sur le site du CCNE puisque nous sommes autosaisis puisque c'est aussi le rôle du CCNE sur la question du deuil. Nous avons fait une prise de position sur le décret du 1er avril qui nous semblait extrêmement restrictif. Nous appelons à beaucoup plus de souplesse justement pour honorer les morts comme votre intervenant le disait.
Merci à vous trois, merci à vous Martin Rebeff, je rappelle que vous êtes philosophe, vous avez édité Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade et vous êtes le traducteur de Carlo Ginzburg, d'Italo Calvino ou encore de Giorgio Agamben dont on a beaucoup parlé pendant cette émission. Merci à vous depuis Israël, Frédéric Chilo, pour avoir justement évoqué cette situation particulière du traçage numérique mais également de la question des libertés en Israël. Et un grand merci à vous Karine Lefeuvre, présidente par intérim du Conseil consultatif national d'éthique, d'avoir accepté la discussion sur cette question. Là, c'est une discussion très importante que nous poursuivrons dans les prochaines semaines dans le temps du débat. Il me reste à remercier toute l'équipe du temps du débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier, Manon Prissé, qui donc prépare avec moi ces émissions et qui continue de nourrir chaque jour la conversation mondiale en publiant des textes d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes du monde entier sur le site de France Culture sous ce titre. Merci au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche, mais aussi pour cette émission enregistrée chacun chez soi, à Jean-Marc Loos, Christian-Denis Lecève et Marie-Christine Vesli, à la technique aujourd'hui, Swad Boukorsa, que nous remercions d'avoir été là pour nous permettre de discuter entre nous, Florent Bujon, à la réalisation depuis chez lui, Alexandre Manzanares. Demain, nous nous demanderons si cette crise a conforté ou non les inégalités entre hommes et femmes dans nos sociétés.